Thierry Aubert nous amène presque aux origines des toutes premières fausses nouvelles.
Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de Mon Carnet. Cette semaine, je suis inspiré par la recherche de vérité sur les réseaux. Une recherche toute trouvée par le biais d'un tweet de Bruno lui-même sur l'usage de deepfake dans la communication commerciale. Un tweet d'ailleurs qui a généré pas mal de réactions. Dans notre ère dominée par l'information instantanée et les réseaux sociaux, il est courant de s'interroger sur la prolifération des fake news et de se demander si nous ne sommes pas entrés dans une nouvelle période de post-vérité. Cette réflexion m'a poussé à fouiller dans les méandres de l'histoire pour y chercher des échos de notre situation actuelle. À ma grande surprise, j'ai découvert que la diffusion de fausses nouvelles, loin d'être un phénomène propre à notre siècle, a toujours fait partie intégrante de la communication humaine. Et oui, en effet, nos ancêtres n'étaient pas en reste quand il s'agissait de savourer des canulars, des faits alternatifs, j'en bafouille, ou des récits fabriqués de toutes pièces. Prenons pour commencer l'exemple du pamphlétaire irlandais Jonathan Swift, le fameux auteur des célèbres Voyages de Gulliver, qui, dès 1733, définissait le mensonge en politique comme, je cite, « l'art de convaincre le peuple par des faussetés nécessaires ». Fin de citation. Cette conception du mensonge comme outil de persuasion politique n'est certainement pas étrangère à nos contemporains. Mais Swift n'était que le reflet d'une tradition bien plus ancienne où les fausses nouvelles étaient monnaie courante dans les feuilles britanniques du XVIIIe siècle, telles que le Morning Post par exemple. Ces publications, sans scrupules, maniaient l'invective et exploitaient le moindre bruit à des fins politiques ou mercantiles, rappelant les pratiques de certains médias d'aujourd'hui. Eh oui, l'historien américain Robert Darnton, qui a dirigé la bibliothèque de l'université Harvard, l'une des plus grandes du monde, soulignait l'abondance de ragots et de fausses nouvelles dans ses journaux qui n'hésitaient pas à publier des informations improbables. Sous l'ancien régime en France, les nouvelles à la main et les occasionnelles florissaient, diffusant sans vérification des rumeurs sur la vie des grands de ce monde, souvent captées dans les jardins des Tuileries ou du Palais Royal. Marie-Antoinette elle-même fut victime à plusieurs reprises de ces campagnes de désinformation. Les colporteurs, véritables ancêtres de nos influenceurs modernes, remplissaient leurs hôtes de récits évoquant des animaux fabuleux ou des catastrophes naturelles sensationnelles, vendant ce que l'on appelait des canards, le terme est d'ailleurs resté. Ces derniers étaient des histoires imprimées au coup par coup, souvent agrémentées de gravures suggestives. Gérard de Nerval, écrivain et poète du XIXe siècle, était particulièrement friand de ces publications qu'il décrivait comme des nouvelles quelquefois vraies, toujours exagérées, souvent fausses, vendues pour quelques centimes, mais valant bien plus en matière de divertissement. La période des guerres napoléoniennes et les crises qui ont suivi ont été des moments particulièrement fertiles pour la propagation de fausses nouvelles. Les journaux de l'époque, dans leur quête de sensationnel, n'hésitaient pas à diffuser des informations non vérifiées ou carrément inventées. La mort de Napoléon en 1821 a donné lieu à une multitude de bruits sur les conditions de son décès ou sur d'hypothétiques réapparitions de l'ancien empereur alimentant l'imaginaire collectif. Cette tradition de la fausse nouvelle a perduré jusqu'à la Belle Époque, époque où les camelots criaient à tue-tête leurs dernières nouvelles sensationnelles, souvent pour le grand désarroi des lecteurs qui ne se retrouvaient pas dans ces histoires et dans les pages de leur journal. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, toujours en vigueur, tenta de réguler cette pratique en punissant la diffusion de fausses nouvelles. Cependant, l'exactitude d'un fait était difficile à prouver absolument et la bonne ou mauvaise foi encore plus ardue à démontrer. L'application de cette loi reste complexe. Si nos ancêtres avaient eu accès à Internet et aux réseaux sociaux, ils auraient sans doute excellé dans l'art de propager des canulars et des fake news avec la même ingéniosité et le même appétit pour le sensationnel qui les caractérisait déjà à leur époque. L'humain, de tout temps, a eu une propension à embellir, exagérer, voire inventer des histoires pour captiver son auditoire, influencer l'opinion publique ou simplement pour le plaisir de tromper. La technologie moderne n'a fait qu'amplifier cette tendance en permettant à l'information, vraie ou fausse, de se propager à une vitesse et une échelle inimaginables auparavant. La nécessité de discerner le vrai du faux, de vérifier les sources et de rester critique face à l'information consommée n'a jamais été aussi cruciale. Peut-être même très compliquée avec la technologie d'aujourd'hui. La post-vérité, si elle semble être un concept moderne, trouve en réalité ses racines profondément ancrées dans l'histoire de la communication humaine. Ce qui change, c'est la rapidité et l'ampleur avec laquelle l'information est diffusée, transformant chaque utilisateur d'Internet en un potentiel colporteur de nouvelles, pour le meilleur et pour le pire. Allez, pour clore cette réflexion avec une touche d'humour, imaginez si les grands personnages historiques avaient eu accès à Twitter. Jules César aurait pu tweeter, par exemple, « Veni, vidi, vici, hashtag Gaulle invasion » après ses victoires, tandis que Léonard de Vinci aurait peut-être partagé des selfies avec la Joconde accompagnée du hashtag Mona Lisa Smile. Oui, peut-être enfin la voir sourire. Les ragots et canulars qui animaient les discussions dans les jardins du Palais Royal auraient été des fils de discussions enflammés sur Facebook et les canards vendus par les colporteurs seraient devenus des threads viraux sur Reddit. Nos ancêtres, dans leur sagesse et leur malice, nous rappellent que la vérité est souvent plus nuancée qu'il n'y paraît et que l'humour reste une des armes efficaces pour naviguer dans le tumulte des fausses nouvelles. Peut-être devrions-nous prendre exemple sur leur capacité à rire de la situation tout en restant vigilants et critiques. Après tout, si l'histoire nous enseigne quelque chose, c'est que l'humanité a toujours su trouver le chemin de la vérité, peut-être entre deux éclats de rire. Allez, restons sérieux, ou pas, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.